Bonjour, je m'appelle Pauline et le Fil Café, c'est ma petite boutique de laine. C'est aussi un salon de thé à Bayonne, dans le Pays Basque. Dans ce podcast, je vous parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Anne. Anne fait partie des personnes que j'ai rencontrées via le Fil Café. Je crois me rappeler que la première fois que je l'ai vue, c'était lors de la Journée mondiale du tricot en juin dernier. J'avais organisé un pique-nique qui s'est finalement déroulé à l'intérieur à cause de la météo. Ce qui m'a intéressée chez Anne, c'est sa pratique multitalent du tricot. Elle tricote bien sûr, mais elle teint sa laine aussi, elle file avec son rouet. Et j'aime bien sa curiosité, j'aime bien sa démarche très complète autour de la laine, sa philosophie en quelque sorte. J'ai donc eu envie d'en discuter avec elle et de vous partager cette conversation. Je vous souhaite une bonne écoute en notre compagnie. Eh bien, bonjour Anne.
Bonjour Pauline.
Alors, avant de parler plus de tricot, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et nos auditeurs ?
Oui, alors je m'appelle Anne, j'ai 51 ans. J'ai été infirmière pendant une vingtaine d'années. J'ai eu un magasin de laine pendant 2 ans. Et là, depuis une petite dizaine d'années, je travaille comme secrétaire dans une petite commune, voilà. Et par contre, j'ai ma cousine qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais je crois que tu es née avec des aiguilles à tricoter dans les mains. Je t'ai toujours vue avec des aiguilles à tricoter. Donc voilà, le tricot est une part importante de ma personnalité.
D'accord. Alors justement, première question. Moi, je te connais parce que tu es venue à la boutique, on a beaucoup parlé de filage et tout ça. Donc, j'ai l'impression que tu touches un peu à tout dans le domaine du tricot. Mais je voulais savoir comment est-ce que ça a commencé, à quel moment tu es tombée dans la marmite, en fait.
Alors, donc, la marmite du tricot, c'est toute petite parce que ma mère tricotait et que par mimétisme, je pense, je m'y suis mise. Et très vite, j'ai fait quand j'étais à l'école primaire, je me suis fait ma première écharpe. Et quand j'étais en sixième, je me suis fait mon premier pull entier, qui était un pull chauve-souris en coton rose. Donc, il y avait de la surface. Et je suis arrivée au bout et j'étais très fière. Voilà. Et donc, le tricot, en fonction des années d'études, des fois un peu moins, un peu plus. Mmh. Mais après, j'ai fini à un moment où j'étais étudiante à tricoter des pulls pour mes copines à l'école. Elles me fournissaient la laine et moi, je leur offrais le travail fini parce que je n'avais pas forcément les moyens de m'acheter en permanence de la laine pour m'occuper les mains. Mmh. Donc, je le faisais pour mes copines.
D'accord.
Et puis, j'ai tricoté. Et puis un jour, j'ai une très gentille copine qui m'a dit « Mais tu t'es jamais posé la question de savoir comment était fabriquée la laine ? T'as toujours acheté tes pelotes ?» Et là, le truc terrible, ça c'est une bonne question. Donc j'ai commencé à m'intéresser à comment fabriquer les pelotes, qu'effectivement elles ne poussaient pas sur des arbres.
Les pelotiers, tu veux dire ?
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de pelotiers en fait. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet. C'est vrai que c'est magique, cet outil. J'étais sur le forum du filage. J'ai regardé des choses sur YouTube. Et j'ai dit, oui, mais c'est sûr. Il faut que j'essaye de fabriquer ma laine. Voilà, donc c'est fait comme ça, par le biais d'une copine qui m'a fait penser que peut-être en amont de la pelote, il y avait autre chose à faire. Et donc ça, c'était il y a une dizaine d'années.
D'accord. Et alors, par quoi est-ce que tu as commencé du coup par filer
D'abord, j'ai commencé à m'intéresser aux matières. Et puis, je me disais qu'il fallait apprendre comme tout le reste. Mais effectivement, là où j'habite, il n'y a personne qui filait. Donc, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit que de toutes les manières, sans matériel pour débuter, je ne pourrais pas apprendre. Donc, j'ai commencé par faire un gros investissement. J'ai acheté d'occasion, certes, mais d'occasion quasi neuf, un rouet et une cardeuse. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai les outils, je peux me mettre au travail. Mais on le sait tous, la matière première de qualité, ça a un coût. Et pour apprendre, je trouvais un peu dommage. Donc, mon premier fournisseur, ça a été le père d'une copine qui est éleveur de brebis pour le fromage et dont la laine n'est pas douce, mais c'est de la laine. Donc, au moment de la tonte, j'étais récupérée de toisons que j'ai lavées. J'ai pas tout lavé parce que c'était très sale. Et ça m'a permis d'avoir de la fibre de mouton, de la laine de mouton, pour faire mes gammes.
Ouais.
Voilà, et c'était assez sympathique. Je me suis même amusée dès le départ avec des colorants alimentaires. Voilà.
Ah oui, c'est, donc t'as ouais, vraiment le tout, la teinture
ouais,
aussi.
Ouais, c'était très ludique. Le filage, mais forcément au début, c'est très irrégulier. Et puis surtout, il faut reconnaître que quand on a de la laine d'une bête qui n'est pas prévue pour faire de la laine à porter sur soi, quand on file, ça ressemble quand même à de la ficelle. C'est pas très agréable.
C'était quoi comme brebis?
Des brebis manèches, je pense.
Oui, c'est une race locale, en fait.
C'est ça.
Pays basque,
c'est ça. Pour faire le fromage. Donc, effectivement, la laine, on peut s'en servir en tant que laine, mais pas pour porter à même la peau, par exemple, quoi. Et puis, même à filer, c'est pas un vrai plaisir.
Oui, j'imagine. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu en as fait de tes premières pelotes comme filet?
Je les ai gardées. Je les ai gardées. Mais des fois, je m'en sers de ficelle quand je suis en rade pour envelopper des trucs, pour nouer des choses. Voilà, mais j'en ai gardé parce que ça me permet de me rendre compte quelques années après, parce que c'est vrai que au moment du filage, il y a quand même des paliers au niveau de l'apprentissage, de nouvelles techniques, un fil plus ou moins gros, plus ou moins fin. C'est vrai que c'est particulier. Et de retomber sur les premières choses que j'ai faites, je me dis que, ah ouais, quand même, j'ai fait un peu de progrès. Parce que sinon, c'est comme les enfants qui grandissent, on ne s'en rend pas compte. Nous, on progresse et je ne m'en rendais pas trop compte non plus. Mais en revenant en arrière, je me rends compte que oui, c'est mieux. Après, c'est mieux aussi parce que maintenant, je prends de plus jolies fibres et que le rendu, même visuel, est plus joli. Mais la régularité du fil, certes, c'est... Ça se fait force à force.
Et alors du coup, moi je trouve que c'est une super idée d'avoir demandé à un éleveur à côté de chez toi la fibre, enfin la toison des brebis du coin. Parce que je pense que si moi j'avais eu l'idée de faire ça, je serais allée chercher sur internet quelque chose à acheter en ligne. J'aurais même pas pensé que près de chez moi, et pourtant on sait qu'ici quand même il y en a des brebis.
Ouais. Hein.
Mais du coup, après, est-ce que ça t'a poussé à réfléchir justement à la qualité de la fibre, au traitement des animaux? Est-ce que ça t'a poussé un petit peu à t'intéresser à tout ça?
Oui, certes. Bon, parce qu'on voit de toutes les manières régulièrement que dans certains pays en particulier, les moutons qui sont élevés pour leur laine sont particulièrement pas bien traités. Et donc c'est vrai qu'on y réfléchit, mais en même temps, sauf si on va se servir chez un éleveur directement, ce qui n'est pas facile pour certaines matières, on ne peut pas savoir ce qu'ont vécu les bêtes avant, les voyages, les tontes violentes. Et donc là, je suis un peu gênée parce que tant que je ne pourrais pas me fournir directement chez un éleveur ou avoir mes bêtes à moi, je ne pourrais pas dire à 100%. Tiens, cette laine, elle est magnifique, tout ça, mais je ne sais pas dans quelles conditions les animaux sont élevés. On sait qu'il y a des marques qui se disent respectueuses des animaux, mais en même temps, on n'est pas là pour le vérifier, donc on est obligé de les croire sur parole, comme les laboratoires de médicaments. Donc certes, j'y pense, mais je ne suis pas sûre que chaque fois... J'ai des fibres de bêtes qui sont forcément très très bien traitées.
Et du coup, pour t'approvisionner, alors tu cherches où? Tu cherches plutôt près de chez toi, plutôt, enfin, quand je dis près de chez toi, c'est dans les Pyrénées au sens large, ou est-ce que tu as des fournisseurs que tu connais bien et qui sont à l'étranger? Comment tu
procèdes? Alors, au départ, on m'a donné des toisons. Alors, pas forcément de bêtes... qui était prévu pour ça. On m'a donné deux toisons de moutons d'Ouessant. Apparemment, de ce que j'ai lu, il y a de tout. Il y a du très doux et il y a du pas très doux. Moi, elle est intermédiaire, celle que j'ai eue, donc on me l'a donnée. On était prêt à m'en donner d'autres, mais le problème, c'est que moi, je n'ai que deux mains et des journées de 24 heures. Donc je l'ai testée, c'est pas trop mal. Après, on m'a donné deux années à la suite une toison d'alpaga. Donc ça, c'est super. En plus, à la différence du mouton, il n'y a pas de suinte. Donc, on peut, quand on le trie, on ne se met pas du gras plein les mains. Ce n'est pas forcément toujours très agréable, l'odeur et le gras. Et donc ça, c'était chouette. Et c'est ça qui m'a fait penser que de partir de toison propre ou presque propre, ou de fibres prêtes à filer, pour moi qui n'ai pas beaucoup de temps, ça pouvait être pas mal. Voilà, donc j'ai regardé sur Internet, parce que forcément, ici, c'est pas un pays de fileuses, et donc il n'y a pas de boutique où on peut trouver. Ça existe dans certains endroits, mais bon, pas ici. Donc effectivement, j'ai trouvé deux ou trois sites sur lesquels je commande assez régulièrement, parce que je suis contente des fibres qu'ils m'envoient. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas forcément où sont élevées les bêtes et comment elles sont élevées.
Mais voilà. En tout cas, ça fait partie de ta réflexion quand même.
Ah oui, ouais, oui, tout à fait. Tout à fait.
Essentiel, on va dire. Mais alors du coup, tu parles des journées qui font que 24 heures, mais moi j'ai l'impression que quand tu parles de tout ça, tu y passes beaucoup de temps en fait. Et comment tu arrives à concilier ton travail, ta vie privée et ta passion
Je fais des sacrifices, je ne fais pas beaucoup de sport. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Donc voilà. Je fais des sacrifices sur le ménage, c'est pas bien de le dire, mais je suis honnête, parce que voilà, je trouve qu'une fois que j'ai fait mes 35 heures de boulot, plus la logistique familiale, j'ai deux enfants ados et un mari adulte, et donc c'est vrai qu'il me reste en définitive peu de temps, et donc ce temps-là, j'ai pas envie de le passer en plus à astiquer la maison, donc j'ai décidé que une ou deux heures par jour, soit le matin, soit le soir, je travaillais la laine sous une forme ou sur une autre, soit par le filage, soit par le tricot.
Et autour de toi, comment est-ce que ta famille voit cette passion, ou tes amis, qu'est-ce qu'ils en disent
Ils sont un peu surpris au départ, et puis en définitive, vu ma personnalité, ils ont l'air de se dire « oui, mais vu comment on la connaît, elle est un peu particulière, hein, donc il fallait bien qu'elle fasse des choses un peu particulières ». Non, ma famille, elle trouve ça super. Mes filles sont très fières de dire à leurs amis que moi je file avec un rouet. Elles savent pas forcément ce à quoi ça correspond, mais non, elles aiment beaucoup. Pour autant, elles n'ont jamais demandé à apprendre, mais c'est pas grave. Ma mère, donc, qui a toujours tricoté, mais de manière, de manière très très académique, c'est-à-dire tu lui enlèves le modèle, elle sait plus rien tricoter,
elle achète elle achète la laine
qui va bien, voilà, surtout la même, et sinon elle est un peu perdue. Donc le fait que moi je sois sortie de cette espèce de carcan, elle hallucine complètement, et puis elle adore vraiment.
Bah c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu transmets cette passion autour de toi ? Est-ce que à tes filles ?
Mes filles, non, parce que pour le moment, elles n'ont pas l'air d'avoir très envie. Donc, je ne vais pas leur forcer la main. Mais par contre, maintenant que j'ai un peu plus d'assurance sur l'aspect de mon travail, et j'essaye à chaque fois que possible de faire des démonstrations dans des endroits. Bon, là, dans la semaine prochaine, je vais faire un marché de Noël. Voilà, donc, et c'est super, parce que les gens n'imaginaient même plus que ça existait, des personnes qui filent. Et alors, il y a tous les angles, il y a les... Mais qu'est-ce que c'est ces matières ? Et puis les gens touchent, et puis ils font la différence. J'essaye d'amener des fibres différentes, un peu de soie, un peu d'alpaga, un peu de mérinos, et donc les gens touchent. Après, il y a les hommes plus âgés qui regardent l'outil. Oh, quel bel outil ! Et tout ça, et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre... quels que soient les âges, quel que soit le sexe, les gens viennent parler facilement et s'intéressent et questionnent, ouais.
Oui, ouais, je crois que ça suscite beaucoup d'intérêt, de questions. Les gens aiment bien, en fait, revoir comment... Enfin, se reconnecter un petit peu avec le processus de fabrication des choses qu'ils utilisent tous les jours et dont ils ont oublié l'origine.
Oui, parce qu'il y en a, bon, d'âge moyen, pas les plus jeunes forcément... qui disent « Ah, mais c'est vrai que chez moi, autrefois, ma grand-mère, il n'était pas aussi joli que le vôtre, mais elle avait un rouet, et puis après, elle nous tricotait les chaussettes. » Et c'est vrai que là, du coup, ça se recale un peu dans une réalité.
Et à part donc, cet échange que tu peux avoir avec les gens et qui te plaît, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'apporte, en fait, cette pratique très, on va dire, pluridisciplinaire du tricot ?
Mais je trouve que c'est très, très épanouissant, l'idée de se dire qu'un jour, peut-être, qu'il n'y aura plus de petits chinois pour fabriquer les vêtements, les chaussures, les sacs et tout ça. Et que moi, si on me laisse une bête et mon rouet, ben, peut-être je pourrais encore m'habiller. Ben, je trouve que c'est drôlement gratifiant.
Ouais, c'est un côté un peu autodidacte et
ouais
et autonome,
c'est ça,
complètement autonome.
Bon, ouais. C'est le tout début de l'autarcie, hein, parce qu'après, il faudra faire le potager aussi et tout ça. Il y a des problèmes de temps. Mais je trouve que c'est gratifiant de se dire qu'on peut faire un objet, un bel objet de A à Z.
Oui, je suis d'accord. Et alors, du coup, tu as parlé tout à l'heure de ta boutique de laine. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Voilà, donc c'était mon rêve, forcément, puisque je suis née avec des aiguilles à tricoter à la main. Mon rêve de toujours, c'était d'avoir une boutique de laine à moi. J'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que mon métier d'infirmière, il fallait que je l'oublie. Et je me suis dit, c'est peut-être maintenant. Donc, j'ai ouvert mon magasin de laine à Mauléon. En 2008, il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je revendais des laines de chez Fonti, que tu connais bien, ou de chez Plassard. Et je me suis éclatée pendant 2 ans. Je me suis vraiment éclatée. Le problème, c'est que 2008, ce n'était pas la bonne année, je pense, pour ouvrir un commerce, puisque avec c'est là crise. Que tout s'est cassé la figure. J'avais une petite clientèle de fidèles. J'avais même des gens qui venaient de Pau. Parce que
Mauléon, alors pour ceux qui connaissent pas trop le Pays Basque et la Soule,
voilà, c'est Mauléon,
quoi, 1h30 de Bayonne.
Une bonne heure de Bayonne heure, et de Pau, pareil à peu près.
Voilà. C'est côté plus Pays Basque, mais plus côté Béarn. En fait.
C'est ça, c'est à la limite du Béarn. On est à une demi-heure de Laurent, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un peu excentré. Mais moi, j'ai connu il y a un peu plus de 20 ans. À Mauléon, il y avait 3 magasins de laine. Ouais. Et quand moi, j'avais ouvert en 2008, il n'y en avait plus un seul. Donc, je me disais que, de toutes les manières, j'avais envie d'essayer. Je savais que je prenais des risques. Mais bon, des risques calculés, quoi. Hein.
Oui, puis bon, si on ne se lance pas...
On ne peut pas savoir.
Je peux le témoigner aussi, si on ne se lance pas, on ne peut pas savoir.
Et
si
par contre, on va regretter toute sa vie de ne pas l'avoir
Exactement.
Fait.
Exactement.
Donc moi, là, je ne regrette rien. Et effectivement, au bout de 2 ans, il a fallu que je me rende à l'évidence que ce n'était pas viable. Et que j'étais encore jeune avec des enfants à élever. Et qu'il fallait que j'aille dans des choses qui me rapportent de l'argent, parce qu'autant je m'éclatais, autant je ne me payais pas de salaire.
Oui,
donc c'était pas...
On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Voilà, c'est
plus,
ça. Ouais. Au bout de 2 ans, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était une super expérience, que j'étais allée au bout de mon projet, que j'avais vendu des belles laines à des gens qui avaient apprécié ma boutique, mais que, une page devait se tourner, et voilà.
Et ça t'a fait des rencontres via cette boutique, tu dis que t'as eu des habitués, des fidèles,
j'ai
une petite communauté
Après, je connaissais déjà beaucoup de monde sur Mauléon, puisque c'est là que j'étais infirmière à domicile, donc j'ai eu pas mal de personnes âgées que je connaissais de par mon boulot précédent, mais avec qui, du coup, j'ai tissé des liens un peu plus privilégiés. Et puis là il y avait le côté transmission des personnes qui savaient tricoter, qui avaient appris à tricoter autrefois, qui avaient laissé tomber et qui venaient me voir en me disant mais si par exemple je veux faire ça et que je coince et, oui, bien sûr, vous pouvez venir, on le fera ensemble.
Moi, j'ai aussi beaucoup ces personnes-là qui ont tricoté il y a longtemps, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment dans les années 70-80, où le tricot, c'était un truc qu'on faisait à la maison, un truc de femme au foyer, en fait.
Époque
où
il y avait plus de femmes au foyer, justement.
Et puis du coup, on arrêtait d'enseigner ça aux petites filles, parce qu'on trouvait ça un peu sexiste. À l'école, ça se faisait plus. Et du coup, il y a toute une génération de femmes, et d'hommes aussi, qui n'ont pas appris, ou qui s'en sont détournées, et qui y reviennent aujourd'hui, en fait.
Ouais. Et puis, il faut dire aussi que les tricots que nous faisaient nos mères et nos grand-mères, quelquefois, ils piquaient drôlement. Et je crois qu'on a des souvenirs, sans que ce soit très précis, de trucs qui grattaient et que les pulls en acrylique des magasins, ils ne grattaient pas, quoi.
Ça, c'est le plus le combat d'aujourd'hui, en fait. Faire comprendre que non, c'est pas parce que c'est de la laine que ça pique. J'ai encore eu un monsieur hier au magasin qui m'a dit « Ah oui, non, mais moi, je veux pas un bonnet en laine, ça va me gratter. » Non,
ouais.
Pas du tout.
Ça va gratter dans la tête, pas sur la tête.
Et c'est plus aujourd'hui, ça va être plus ça. C'est de convaincre les gens que la laine, c'est une super matière, que certes, elle peut être controversée quand on sait pas d'où elle provient et que voilà, il y a des questions qui se posent sur comment les animaux sont traités, mais que globalement l'impact écologique par rapport à l'acrylique est quand même bien moindre, Et un jour ou l'autre, de toute façon, l'acrylique, c'est des matières qui sont dérivées du pétrole.
C'est ça, le pétrole, il n'y en a plus pour des millénaires.
C'est épuisable, donc un jour, il n'y en aura plus. Ouais. Donc, il va bien falloir commencer à s'y
mettre. Puis on commence à... la matière magnifique qui est la laine polaire, tous les suites en laine polaire, on commence à se demander si ce ne serait pas un peu cancérogène.
Oui, voilà.
Donc...
Puis il y a eu tout le truc de dire, on reste que des bouteilles plastiques pour en faire des polaires, c'est ouais, super, ouais. Mais bon...
Il arrive un moment...
La polaire, un jour, il va falloir la jeter aussi,
C'est ça. Donc, moi, c'est vrai que je fais beaucoup d'accessoires, parce que ça va plus vite que de faire des grands pulls, mais les pulls que je me suis fait, ils sont partis au rebut, quand on voyait à travers, parce que je les aimais tellement que je les ai usés jusqu'à la lit, quoi. Hein. Mm. Et j'arrive toujours à en faire un petit quelque chose après. Hein. Voilà. Non, ils partent jamais complètement à la poubelle, parce que c'est un crève-cœur pour moi, mais c'est pas la même démarche. Je veux dire, quand mes filles déchirent leurs pantalons, je les mets à la poubelle sans souci, quoi.
Ouais. On n'a pas parlé teinture, en fait. On a parlé de filage beaucoup. Mm. Et la teinture, comment est-ce que... Bon, tu disais qu'au début, tu avais essayé avec des colorants alimentaires, mais du coup, est-ce qu'après, tu as développé un petit peu cette partie-là? Tu as essayé d'autres pigments?
Oui, alors au niveau de la teinture, ça, c'est un peu de la magie quand même, hein, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir au bout. Mais donc, j'ai essayé, parce que je me suis posé la question là, de la teinture, de la même manière que d'où viennent les bêtes, comment elles sont traitées. Il existe des colorants chimiques et des colorants naturels. Alors, mon problème, c'est qu'au départ, je me suis dit, tant qu'à être logique, je vais utiliser des colorants naturels qu'on trouve dans la nature, des feuilles, des fleurs, des racines, des champignons. J'ai un peu tout essayé. Sauf que pour que la couleur, elle tienne sur la laine, il faut mordancer la laine. Ça veut dire mettre un produit chimique pour que la couleur, elle tienne, parce que sinon, elle ne tient pas du tout. Et du coup, ça me perturbait un petit peu.
C'est quel genre de produit chimique, par exemple?
De la crème de tartre, de l'alun.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Donc, c'est quand même des produits qui ne sont pas neutres. Alors certes, ce n'est pas des quantités industrielles, surtout quand on le fait à petite échelle comme ça. Mais malgré tout, on se détourne du côté écolo. Mmh. Je ne suis pas une écolo pure et dure. Mais voilà, du coup, j'ai regardé ce qui existait en termes de couleurs, de colorants spéciaux pour laine. Et j'ai trouvé une marque qui fait de la teinture éco-responsable. Et ils ont une palette de couleurs qui permet de faire des trucs sympas. Et je me dis que c'est peut-être pas pire que...
C'est quoi, c'est Greener Shade que tu utilises?
C'est ça,
oui. Oui, c'est une marque assez répandue maintenant, quand on cherche justement des pigments un peu éco-responsables, sans métaux lourds.
Ouais. Et c'est des couleurs qui tiennent a priori pas mal. Et du coup, je sais pas pourquoi, je suis moins gênée que de travailler avec des vrais produits chimiques. Mais bon, pour autant, j'aimerais bien un jour faire un stage à Valoris, là-bas, chez Michel Gartia, pour faire un vrai stage de teinture naturelle. Ouais. Parce que je pense qu'eux, ils doivent avoir des dérivatifs, peut-être, avec certaines plantes. Voilà, ouais. Certaines plantes ou certains animaux, puisqu'il y a des colorants, la cochenille et le pourpre, ce sont des animaux.
Ouais.
Voilà, donc je ne suis pas au bout du chemin, hein. J'ai encore plein de choses à apprendre.
Et alors après, donc tu tricotes que pour toi, enfin toutes ces étapes que tu suis, la toison, le filage, la teinture, c'est uniquement pour te faire des projets à toi ou est-ce que tu tricotes pour d'autres?
Mais a priori, je tricote pour tricoter. Après, là, comme je vais faire un marché de Noël et que je vais faire une démonstration de filage, mais ce que j'ai en stock, je vais le proposer à la vente. Voilà, ça me permet de racheter des fibres et de racheter des colorants et... mais non, je travaille pas sur commande, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de me mettre des pressions supplémentaires. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis si ça plaît à des gens, tant mieux. Et puis sinon, moi je me suis fait plaisir et c'est déjà pas mal. Sinon je fais des choses, des fois sur commande entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des cadeaux. mais des vrais cadeaux, hein, des gens
qui savent les apprécier.
Voilà, qui savent les apprécier et qui m'ont fait des cadeaux que j'aurais jamais imaginé. Et je me disais, ah, voilà, donc ça, moi, mon plus beau cadeau, c'est de faire quelque chose de A à Z pour eux. Et sinon, je fais du troc. Un bonnet contre une réparation d'ordinateur. Parce que c'est vrai que quand je vends mes choses, je ne peux pas les vendre au prix que m'ont coûté les choses, entre la matière, le temps de travail,
le temps passé, ouais.
Les colorants. Donc voilà, c'est juste histoire de faire partir pour renouveler mon stock. Mais du coup, des gens qui ont un peu la même philosophie de vie que moi, j'arrive à trouver un terrain d'entente pour faire des vrais échanges. On ne peut pas mettre un prix sur tout, mais je ne vais pas échanger une paire de chaussettes filet main contre un paquet de pâtes, quoi. Donc,
oui.
Voilà.
Oui, oui, oui. Mais je trouve ça super comme idée, en fait, d'échanger un
service contre un autre.
Du temps passé contre du temps passé.
C'est ça. C'est ça.
Je trouve que c'est une super idée, ouais, d'échanger un peu des savoir-faire, en fait.
C'est ça.
On a... enfin, le produit du savoir-faire, quoi.
C'est ça. Et je trouve que là, c'est comme les circuits courts dans les ventes de produits alimentaires. Eh bien, il n'y a pas d'intermédiaire et du coup, tout le monde s'y retrouve.
Ouais, oh, c'est une super idée. je note une note mentale à moi-même. Ouais, pour éventuellement échanger des services, ça peut être... Oui, parce que du coup, le prix d'un objet tricoté, c'est toujours un peu sujet à débat, à réflexion.
C'est mon drame annuel au mois de décembre. Combien je vais demander pour ça et,
Oui, alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a le prix psychologique que les gens sont prêts à payer. Et il y a le prix qu'on est prêt à demander pour son travail. Et ça, c'est encore pire, je trouve, parce que moi, j'ai tendance à toujours sous-estimer le temps que j'ai passé à faire quelque chose, parce que je me dis, oh, ça vaut pas tant que ça. Enfin, c'est...
Moi, je trouve super dommage parce que, effectivement, allez, on va dire que net, le SMIC, il est à 9 euros, à peu près.
Oui, c'est à peu près ça, le SMIC horaire. Hein, ouais, c'est à peu
donc,
près ça.
Donc, sans aller dans les centimes, je veux dire, entre la matière qui est fournie et le temps de travail pour tricoter l'objet, alors ça peut être vite fait quand c'est des petites choses, un petit bonnet de bébé, c'est vite fait, mais un pull pour un monsieur qui mesure 1m90, c'est plus la même, quoi.
Non, je sais, je peux témoigner.
C'est pour ça, j'en sais quelque chose aussi. Donc, malgré tout, pourquoi le garagiste, tu vas aller le payer 35 euros de l'heure et t'en sortir avec une douille de 1000 euros alors qu'il a passé, il a acheté 3 pièces et il a passé 2 heures dessus? Pourquoi tout le monde est prêt à mettre autant dans sa voiture et ne pas reconnaître le travail, un savoir-faire, et le payer, mais peut-être pas au SMIC, mais entre 9 euros et 35 euros de l'heure pour un garage, il y a quand même une super marge. Ouais. Et ça, je trouve ça assez injuste. Mais pour autant, je vends mes choses pas chères parce que sinon, je ne vais plus avoir assez de place dans la maison pour les garder.
Les placards débordent.
C'est ça.
Mais j'ai eu cette discussion avec un ami il n'y a pas très longtemps qui m'a dit oui, alors voilà, si tu dois faire payer ton travail pour du temps passé, parce que bon, évidemment, il y a la matière première à rembourser, ça paraît évident. C'est surtout sur la main-d'œuvre, hein, que les gens vont dire oh, ça c'est trop cher.
Ouais. Voilà.
Et il m'a dit 10 euros de l'heure, c'est à peu près le SMIC, mais c'est pour un travail basique qu'une grande majorité de personnes peuvent faire.
Oui. Voilà. Ah oui, oui. Alors on passe, en plus, on part du savoir-faire qui ferait donner une plus-value.
C'est ça. C'est toi, si tu tricotes, ou même si tu tricotes à la machine, parce que je dis oui, mais la machine, ça va vite, je passe moins de temps.
Oui, mais il faut un savoir-faire aussi.
Il faut savoir l'utiliser. Oui, donc ça demande un savoir-faire. Il m'a dit toi, tu peux demander 15 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, parce que tu as un savoir-faire que les autres n'ont pas, et ils viennent te voir pour ce
pour ça.
Et donc oui, voilà. Mais c'est vrai que... Bon, après, je le vois aussi au magasin, le prix de la laine, de la matière, c'est quelque chose que les gens ont encore du mal à évaluer, à comprendre.
Parce que justement, ils ne se posent pas la question non plus de savoir en amont comment est faite une pelote de laine. Quoi.
Moi, je ne vends pas, par exemple, les modèles que je fais pour la vitrine. Bon, j'en ai pas tant que ça, puis ils me servent. Mais si je les vendais, je suis sûre que les gens trouveraient ça trop cher. Parce qu'il y a déjà la matière, mais il y a aussi le temps passé dessus.
Ouais.
Et très souvent, hein, j'entends des gens dire « Ah oui, sur un marché, j'ai vu un poncho en alpaga, superbe, mais bon, 140 euros, je trouve que c'est vraiment trop cher.
Ouais. »
Non, parce que tout dépend du poncho, mais j'imagine que la personne qui l'a tricoté, elle n'a pas fait avec n'importe quelle fibre,
elle a passé du temps. Et justement, ça, c'est une notion qui est importante, c'est cher, c'est pas cher. Moi, j'insiste auprès de mes filles, qui sont donc adolescentes, 17 et 15 ans, Quand on, les rares fois où on fait les boutiques ensemble parce qu'on n'est pas fans ni les unes ni les autres, la grande surtout elle dit oh, mais c'est cher ça. Alors je lui dis non, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qui sont chères et il y a des choses qui ne sont pas dans tes moyens. Alors là par exemple, quand tu vois cette chose faite de manière artisanale à la main, c'est pas cher, c'est juste pas dans tes moyens. C'est quelqu'un qui, même encore là, ne se paye pas le SMIC quand il le vend. Par contre, quand tu vois des chaussures Nike dans une vitrine de magasin de sport à 150 ou 200 euros, fabriquées par des petits Indiens, des petits Chinois, ça c'est cher. Parce que là-bas, le travail, il n'est pas payé. Donc, je dis, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Et bon, je crois qu'elles l'ont compris. Et...
Oui, je ne sais plus, l'autre jour... Je regardais le prix d'un t-shirt, c'est quelques dizaines de centimes en fait. Le prix qu'on paye l'ouvrier pour un t-shirt.
Ouais, ouais.
Voilà. Quand on sait que nous, le t-shirt, on va le payer 30 euros.
Ouais. Ça fait mal. Hein.
Ouais, ça, voilà.
Ça fait mal. Hein.
Bon, ouais. Après, bon, on a, voilà.
On va pas refaire le monde du jour au lendemain.
Puis, quand, les gens me disent c'est cher, ouais. Je vais pas leur faire la pédagogie, tous les discours. Ouais. Mais je me dis qu'il y a un long chemin à faire là quand même. Parce que. Ouais.
Ah ben, moi, je vais quand même te raconter une anecdote parce qu'elle est croustillante. Quand j'avais le magasin, j'avais la collègue de Salis qui avait une mercerie qui a fermé depuis, mais qui vendait aussi des laines de chez Fenty et de chez Plassard.
Ah oui, à Salis de Berne.
Voilà, c'est ça. Donc, on avait sympathisé, on s'était trouvé par hasard à une fête à Salis. Et puis, donc, du coup, on se voyait de temps en temps. Et un jour, elle me dit, parce qu'on parlait justement de la valeur des choses, de à quel prix on pouvait vendre les choses, à quel prix on les vendait. Elle me dit, un jour, j'avais un présentoir dehors avec 3 ou 4 pulls tricotés, et il y a 2 dames qui commencent à regarder, et puis à tourner, mais c'est cher, hein, parce que c'est pas grand-chose à faire, ça. Et alors, Dominique, c'était une personnalité assez forte. Et donc, elle est allée voir les dames, elle dit, mais écoutez, si vous trouvez trop cher, je vends les explications et la laine dans mon magasin, vous pouvez vous le faire seule. Ah, mais je ne sais pas tricoter. Alors, la dame, elle ne savait pas tricoter, mais elle savait quand même que c'était rien à faire. Alors ça, quand même, j'ai halluciné, quoi. Et donc, voilà, c'est ça. La reconnaissance du travail, elle est difficile.
Oui, et puis surtout, je pense, pour toutes ces petites choses... C'est révélateur, parce que j'ai une petite, mais non. C'est les choses du quotidien, repriser une chaussette, faire un ourlet, tricoter un bonnet. On est prêt à payer cher pour la voiture, comme tu disais, mais pas pour ces choses-là du quotidien.
C'est ça.
Et je sais pas, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est parce que longtemps, c'est les femmes à la maison qui faisaient ça, voilà, donc...
Un travail dénigré qui n'était pas payé.
Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est que c'était une activité qu'on faisait à la maison, enfin, quand je dis « on », c'est les femmes.
Oui, oui.
Et finalement, du coup, on a gardé ça aujourd'hui en se disant « bah non, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà, vite fait, faire un ourlet, on va pas non plus payer 10 euros de l'heure à quelqu'un pour faire un ourlet. »
Pourtant, dans les magasins où ils font des retouches, c'est ça.
Et oui.
C'est ça. L'ourlet, c'est 20 euros.
Ben oui,
un bel ourlet, ça demande une technique. Moi, je ne sais pas le faire, je fais des revers, quoi. Mais,
mesurer, couper, bâtir, coudre.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est malheureux parce que ce sont des savoir-faire qui ne sont pas valorisés d'un point de vue financier. Du coup, ils vont se perdre.
Et pourtant, voilà, sur les marchés de Noël, on aime bien venir voir comment on file la laine.
C'est ça. Et bon, c'est déjà, c'est toujours ça de... Mmh. Voilà. S'il y a possibilité qu'il y ait dans le lot une personne qui se dise « Ah ouais, moi j'ai envie de faire ça aussi », eh bien, ça peut se perpétrer un peu plus.
Ben, on va militer pour ça.
non, oui, moi je trouve que c'est chouette quand même l'idée de faire comme quand on fait son potager, qu'on met la graine du haricot vert, le jour où on l'a dans l'assiette, et ben,
voilà.
il a vraiment pas le même goût que les autres.
La boucle est bouclée,
c'est ça. Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Bon, bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu de Mouléon, du coup, jusqu'à moi, là, c'est très gentil d'avoir fait la route.
Merci de me remercier, mais c'est un plaisir, Pauline.
Bah écoute, voilà, plaisir partagé, j'espère que les gens qui écoutent auront autant de plaisir à l'écouter. Et puis, ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sauf si tu veux ajouter quelque chose.
Non, si un jour vous voyez quelqu'un qui file, n'hésitez pas à vous arrêter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, sera ravi d'en discuter avec vous, parce qu'on aime bien partager. Ouais.
Et ben merci beaucoup, Anne.
Avec plaisir, Pauline.
L'épisode d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes sur le blog. Il y aura donc quelques indications complémentaires par rapport à des sujets que l'on a abordés avec Anne. Donc le blog, c'est lefilcafé.fr/blog. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.